Vous écoutez RTL.
RTL.
Pour comprendre les Incas ou les Égyptiens, rien de tel qu'un atelier pratique. Des bandelettes de lin, de la résine, des amulettes pour conserver l'âme au paradis, ces gestes simples permettent de dédramatiser le sujet.
La curiosité est un vilain défaut.
Des milliers d'années plus tard, ces visages et ces corps interpellent. Leur conservation est extraordinaire. Cette exposition révèle une partie de notre passé, l'histoire des hommes, à travers leurs sépultures.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les secrets des momies avec nos invités Patrice Lecoq qui est maître de conférence en archéologie de l'ère andine à Paris 1 et puis Raphaël Dupin qui est directeur de Cap Science. Bonsoir. Les momies ne mentent jamais. Pourquoi pense-t-on que les momies ne sont qu'égyptiennes? J'ai fait Thomas, c'est pas un film de James Bond, c'est ça?
Ah si, ça peut être un titre de jeu, mais en fait, je pensais à un titre de San Antonio, moi, ça me rappelait l'émission qu'on avait fait sur Frédéric Dard. Ça aurait pu être un titre de San Antonio,
aussi.
Les momies ne mentent jamais.
Eh ben non, c'est pas de la fiction. Pourquoi est-ce qu'on pense que les momies ne sont qu'égyptiennes?
Alors, on pense que les momies sont qu'égyptiennes parce que c'est les momies égyptiennes qui exercent le plus de fascination. D'abord parce que les Égyptiens ont poussé la momification avec un rite d'embaumement, un raffinement qui a été, à notre connaissance actuellement, totalement inégalé. Et donc on trouve des artefacts qui sont magnifiques, hein, les sarcophages, les tombes, mais également aussi parce qu'au-delà de tout ça, ils nous ont laissé aussi tout un corpus documentaire. C'est-à-dire qu'on a toute l'histoire, on a tous les hiéroglyphes, on a le livre des morts, on a toutes les généalogies, on connaît qui était le frère de qui, la femme de qui, l'ancêtre de qui, donc on se raconte nous-mêmes nos histoires. Et dernier point, c'est cet univers-là... Hollywood, la littérature s'en sont saisis et en ont fait un univers spécifique dans lequel on s'est tous engouffrés.
Et pourtant, les ancêtres, les anciens, les premiers, ce sont les momies andines. Pourquoi, Patrice Lecoq?
Les momies andines, parce que ce sont les plus anciennes. Il s'agit d'une culture qui est la culture Chincheros. Et on a des momies, enfin le terme de momie ne correspond pas.
Ah oui?
Tout à fait, je vais vous le dire pourquoi, qui remonterait vers 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors pourquoi ça ne correspond pas? Parce que c'est une culture qui s'est développée au nord du Chili et au sud du Pérou, entre 6000 et 4000 avant Jésus-Christ. Ce sont des pêcheurs et qui pratiquaient une inhumation particulière, c'est-à-dire qu'ils décharnaient les morts, ils enlevaient la chair, ils raclaient les os avec des os de pélican ou autre chose, ils les faisaient sécher. Et après avoir procédé à ce rite particulier, ils reformulaient, ils refaisaient leurs morts, ils remodelaient dessus, ils ajoutaient souvent des branchages, des fanons de baleine, des branchages d'arbres de façon à redonner une rigidité au corps. Et après, ils remodelaient avec de l'argile le corps humain. Alors, on a deux techniques et deux procédés. Donc, ce corps était remodelé. Et dans les momies les plus anciennes, ce sont des momies noires qui sont datées donc de 4000, 6000 avant Jésus-Christ. Ils leur mettaient une couche de manganèse une sorte de masque recouvert de manganèse. Donc, elles ont une apparence noirâtre.
Vous en avez découvert, vous, de ces momies?
Oui, j'en ai découvert en Bolivie, il y a quelques années, toute une nécropole qui venait d'être saccagée. D'ailleurs, c'est le grand problème des archéologues, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir trouver des momies, parce que bien sûr, les populations locales ont un certain respect pour ses ancêtres, donc elles considèrent ces momies comme sacrées, mais en même temps, il y a beaucoup de richesses. Donc ils sont à la recherche d'or, ils sont à la recherche de textiles, elles sont enveloppées dans du textile qui, sur le marché de l'art, a énormément d'importance, donc qu'on retrouve à Drouot ou ailleurs. Et donc, bien sûr, ils saccagent pour les vendre sur le marché de l'art.
Et donc vous, quand vous découvrez cette nécropole, on va dire ça, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien?
Alors, là, il s'agissait d'enterrements dans des cistes, enfin, ce sont des fosses funéraires, avec des restes de momies qui avaient été sortis quelques jours auparavant par les populations locales. Et ce sont donc des êtres momifiés en position accroupie, fétale, avec des lambeaux de chair, puisque évidemment, ils avaient été sortis sans aucun respect. Tout avait été dégradé. Donc la seule solution, c'était d'essayer de prendre des photos, d'avertir bien sûr la population locale et d'avertir le gouvernement bolivien, l'Institut National de la Culture bolivien. Mais on ne pourrait pas faire grand-chose.
Ouais. Raphaël Dupin, dans votre exposition à Bordeaux, est-ce que vous avez des momies?
Alors on a des vraies momies. Ouais. On a des facsimilés de toute la période égyptienne, on a des présentations des momies de par le monde, hein, des momies chinoises, etc. Mais le cœur de notre exposition, c'est les momies andines. On a récupéré, en partenariat avec le musée de Madrid, le musée de conservation universitaire de Madrid, qu'on remercie d'ailleurs ici, on a récupéré 9 momies de la communauté Chouchou, qui sont des momies, des vraies momies, qui ont entre 1200 et 1400 ans, du 6e siècle environ, et qui sont présentées au public de façon totalement brutes.
Elles sont en bon état, ces momies ?
Elles sont en très bon état. Elles sont en très bon état parce qu'elles sont présentées nues, mais en fait, elles étaient empaquetées, vraisemblablement. C'est-à-dire qu'en fait, les momies andines, de ce qu'on en a retrouvé, puisque ce que dira peut-être M. Lecoq plus tard, c'est qu'une des difficultés des momies andines, c'est que beaucoup ont été brûlées par les Espagnols. À des fins pour casser le rapport à la mort de la culture précédente, les Espagnols et conquistadors se sont attachés à brûler le maximum de momies et de références à la culture antérieure. Et du coup, il y a eu un saccage très important. Et du coup, on a des momies qui sont assez parcellaires.
Alors, vous nous disiez que les momies permettent finalement d'en savoir beaucoup sur une époque, sur une civilisation, sur un continent peut-être. Ben, grâce à vous, on va continuer comme ça de se balader dans l'espace et dans le temps. Ce peuple des Chinchorros. Pardon pour la prononciation. À tout de suite sur RTL.
Très bien.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h sur RTL. C'est du lundi au jeudi en direct. Deux heures de plaisir et de bonheur, et merci à tous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Tiens, depuis tout à l'heure, on a découvert que les toutes premières momies ne sont pas égyptiennes, ça aurait été notre réponse naturelle, évidente, mais plutôt andine, et on le sait grâce à nos invités, Patrice Lecoq, qui est maître de conférence en archéologie de l'ère andine à Paris, et Raphaël Dupin, directeur de Cap Science. Vous organisez cette exposition à Bordeaux, les momies ne mentent jamais. Tiens, je pousse la porte de l'expo. Je tombe sur quoi ?
Alors, vous tombez sur un premier espace qui est l'espace Égypte. Parce que les gens s'attendent à voir l'Égypte, donc on leur propose d'abord l'Égypte.
D'accord.
Donc on rentre à l'intérieur d'un couloir qui décrit les différentes formes d'inhumation, depuis les trous dans la terre jusqu'au mastaba et aux pyramides. Et ensuite, donc, vous découvrez tout l'aspect Égypte. Mais surtout, après, vous passez un angle et vous tombez nez à dos, puisqu'on les a mis de dos, avec 9 momies qui ont été ramenées par cette expédition espagnole.
Et, donc des momies incas.
Précolombiennes,
qui
datent du 6e siècle, donc bien avant les Incas, et qui sont donc
de dos. Pourquoi elles sont de dos ?
Ben de dos parce que dans tout le travail préparatoire qu'on avait fait, on avait une inquiétude, notamment de présenter donc des corps nus momifiés à des enfants, puisqu'on est un centre de culture scientifique, donc on est là pour diffuser la culture scientifique.
Et elles font peur, ces momies ?
Alors,
elles sont impressionnantes ?
Elles sont très impressionnantes, mais elles font surtout peur aux adultes. C'est-à-dire que dans le travail préparatoire qu'on a fait, les enfants ne sont pas du tout dans ce rapport de peur. C'est une construction qui est postérieure à l'enfance. Donc les enfants jusqu'à 7-8 ans, 7 ans à peu près, eux ne meurent pas dans leur tête. Donc ils ont compris que les gens mouraient, mais pas eux. Donc ils sont dans une vraie curiosité. Et ensuite, on est vraiment dans un rapport qui est celui de la découverte. Et on a des médiateurs physiques, c'est la recommandation qu'on a. Donc on a toujours des personnes physiques qui sont là pour accompagner, pour expliquer aux enfants qui ont des dizaines de questions sur ces corps qui sont là, c'est un garçon, c'est une fille, pourquoi il est si maigre, voilà, donc on a plein de pourquoi il a ses cheveux. Et donc on a ce rapport-là, sachant que les momies sont très impressionnantes, on a des figures un peu cabossées, puisque le temps est passé par là, et puis les mâchoires se sont tombées. Et les enfants sont, eux, enthousiastes. Et les parents ont toujours une appréhension, mais ils sont toujours contents après.
Alors, on va retourner dans le temps, dans le passé, à la rencontre de ce peuple des Chinchorros. Et ils ont existé c'était il y a 6000 ans, il y a fort longtemps quand même. C'est un peuple semi-nomade de chasseurs-cueilleurs de la cordillère des Andes. Ils sont descendus s'installer sur la côte pacifique, au nord du Chili. Et ils avaient l'habitude de momifier leurs morts. Quels morts ? Tous les morts ? Patrice
Lecoq ? Ça, c'est un grand problème. On a retrouvé près d'une centaine de momies. Il y a à peine une dizaine d'années, on retrouvait 50 momies dans une maison. On faisait des fouilles, on essayait de restaurer une maison dans la ville d'Arica. Et ils sont tombés sur 50 corps qui sont exposés aujourd'hui au public. Donc on peut les voir, on marche sur du verre. Donc ils ont reconstitué la fouille de façon à ce que la population locale puisse savoir à quoi correspondent ces momies. Et la caractéristique, c'est que cette population avait des pratiques funéraires très élaborées. Le corps était préparé avec soin. Les organes internes, les viscères, la cervelle étaient retirés, la peau était fendue, les muscles enlevés avec des outils de pierre ou de coquillage, puisque le métal n'est apparu que beaucoup plus tard. Les membres étaient rendus rigides et le corps était entièrement reconstruit. Et puis les membres étaient souvent enveloppés avec des nattes et des joncs tressés, et les cavités bourrées avec des touffes de laine, des plumes ou de terre. Et le tout était ensuite enduit d'une couche d'argile, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on resculptait la face du mort. Et souvent, donc, il y a deux époques. Il y a une période la plus ancienne avec des momies noires. Donc le corps était recouvert de manganèse, d'où cette apparence noirâtre. Mmh. Et puis vous avez des momies un peu plus récentes. Un peu plus récente, hein. C'est du 4000-3500 avant Jésus-Christ. Donc tout est relatif. Et là, ce sont des momies rouges parce qu'elles sont revêtues d'ocre. Alors on ne sait pas à quoi correspondent ces deux époques.
On ne sait pas si c'est des niveaux sociaux différents dans la population, des hommes, des femmes, des enfants.
Comme on a retrouvé aussi des enfants, on a aussi des enfants en bas âge, on a aussi des fœtus qui ont été momifiés, donc qui reconstituent le sein, le sexe de la personne. Et donc, c'est vraiment toute la société. Donc, pendant très longtemps, on a pensé qu'il s'agissait de toute la société. Et puis, depuis quelques années, parce qu'il faut, aussi s'attacher au contexte. Là, on parle des momies. Mais lorsqu'on parle des momies, il faut voir la façon dont elles vivaient. Et puis, les offrandes qui étaient réalisées, qui étaient données à la momie. Mmh. Et là, on a plusieurs objets qui laissent penser qu'il s'agissait quand même de certains membres de l'élite dirigeante. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long des époques ultérieures. Ce sont essentiellement les membres de l'élite dirigeante qui étaient momifiés. Notamment chez les paracas.
Alors on en parlera tout à l'heure des paracas, mais cette technique de momification que vous venez de nous décrire, c'est très différent de ce que faisaient les Égyptiens ?
Oui, parce que là, il y a vraiment une décomposition totale du corps. C'est-à-dire, ils enlèvent la chair, ils raclent l'os, ils reconstituent le squelette avec d'autres procédés, ils rajoutent du coton, ils rajoutent du branchage, ils rajoutent des fanons de baleine.
Et ça a évolué au fil du temps, cette technique de momification ?
Oui, ça reste jusqu'à peu près jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puis là, après, on assiste à une momification naturelle. Et on n'assiste plus à cette reconstitution du corps, qui est très particulière et qu'on ne trouve qu'à cet endroit-là de la cordillère des Andes.
Est-ce que dans ces momies que vous décrivez, des chinchurros, est-ce qu'on voit le sexe ? Est-ce qu'ils reproduisent le sexe de la momie et de la personne
qui
a été momifiée ?
Oui, bien sûr. Alors, ils ont reproduit le sexe de la momie, les seins, par exemple, des femmes, le sexe de l'homme qui est reconstruit. Et il semblerait que ces momies aient été laissées en exposition, dont un culte aux ancêtres, parce qu'on a retrouvé des traces de contamination d'insectes, et puis des reconstructions. Les momies ont été réparées. On voit qu'elles se sont cassées, et donc ils ont rajouté un petit peu d'argile à tel endroit. Donc ça laisse supposer que la momie était exposée pendant un certain temps pour lui rendre hommage, enfin on suppose, et après elle était réenterrée.
Mais ça pose quand même une question d'exposer ces corps, ces momies. Est-ce que ça crée la polémique ? Est-ce qu'il y a certains de ces peuples ou des descendants de ces peuples qui disent « arrêtez ».
Oui, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, si vous allez au Chili, depuis une dizaine d'années, les populations Aymara ou Quechua du Chili refusent que les momies soient exposées. Il y avait énormément de momies dans le musée de San Pedro de Atacama, d'où proviennent les momies dont on a parlé, qui sont justement exposées à Bordeaux. Et aujourd'hui, les populations andines disent « nous ne voulons pas, ce sont des ancêtres, nous ne voulons pas que nos ancêtres soient exposés devant tout le monde ». Donc ils refusent. Exception faite des momies chincheros, parce que c'est très très ancien. Alors il y a une négociation, ces momies sont présentées au musée de l'université de Tarapacá, à San Miguel de Azapa, dans une vallée dans la région d'Arica. Et pour éviter la polémique, elles s'est présentées dans un nouveau musée, sur des sortes de brancards, comme s'il s'agissait d'un hôpital. Donc c'est une sorte de respect, puisque les médecins finalement s'occupent des momies. Et là les populations ont accepté, mais c'est une sorte de négociation. Par contre, toutes les autres momies, vous ne trouvez plus au Chili aucune autre momie exposée au public.
Alors, on va raconter une autre histoire maintenant, celle des paracas. Alors là, on imagine une chambre funéraire, c'est assez incroyable, où des dizaines de momies sont liées entre elles. Restez avec nous sur RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Quand on a découvert les momies, notamment de Ramsès II, etc., on les a mis sur un bateau et on les a transportées de Thèbes, de Louxor, jusqu'au Caire. Le problème, c'est qu'on tombe sur les douaniers. Le type a le chargement avec les momies. Il regarde son liste pour savoir à quel taux il va taxer la marchandise. Et c'est authentique. Il ne trouve pas. Évidemment, Pharaon s'était pas répertorié dans les marchandises. Et le type, il a taxé ça comme poisson séché. Et ça, c'est
authentique. Les momies racontées par Christian Jacques, l'écrivain fan d'égyptologie et d'Égypte. Incroyable cette anecdote, Patrice Lecoq et Raphaël Dupin. C'est une histoire vraie, les momies prises pour du poisson séché ?
Ça ne m'étonnerait pas. Il faut savoir que les momies, au XIXe siècle, faisaient l'objet d'un culte particulier, mais aussi on mangeait de la momie.
On mangeait de la momie.
De la chair de momie dans les champs pour les irriguer, notamment en Angleterre. Vous aviez de la poudre de momie qu'on pouvait acheter en pharmacie, enfin mais c'est de l'époque, mm-hmm. de façon à pouvoir vous soulager de certains maux. Donc, la momie, on la trouvait un petit peu partout.
Bon, on espère que vous avez fini de dîner depuis un bon moment, hein, parce que.
Elles sont un peu plus protégées aujourd'hui.
On a moins
les
faim d'un seul coup. Dans l'exposition, on a un flacon d'époque de ce qu'on appelait la momia, qui était dans les cours royales, qui était comme ça, dégustée comme un, à la fois comme un mets, comme une médecine. Donc, après, on peut toujours critiquer d'autres cultures qui mangent de la corne de rhinocéros. On n'a pas fait beaucoup mieux
bien
chez
sûr.
Nous.
Vous allez nous faire entrer maintenant dans des chambres funéraires. On va découvrir un nouveau peuple et donc de nouvelles momies. Ce sont les Paracas. Où vit ce peuple et qui sont qui
Alors, on a parlé tout à l'heure des Chincholos. Ils ne sont pas très, très éloignés. En remontant donc au sud du Pérou, on remonte sur 500 km. Il faut dire que les échelles au Pérou sont assez énormes. Hein. Bon, je ne dis pas très éloigné, c'est quand même 500-600 km entre les
une
deux.
Une paille.
C'est une paille. Bon, et là, on trouve en effet, c'était le désert. C'est en plein désert. C'est dans la région de Nazca. Je vous parle de Nazca parce qu'on connaît surtout les géoglyphes de Nazca. C'est la culture qui vient juste avant.
Donc, on connaît vous avez dit
les géoglyphes de Nazca. Vous savez, c'est des grandes lignes où on trouve aussi des animaux qui couvrent d'énormes superficies qui ne sont visibles que d'avions. Donc on a pensé que c'était des extraterrestres qui les avaient réalisés. Et avant ces populations, on avait des populations qu'on appelle les Paracas, qui vivaient dans la péninsule de Paracas. Ce sont aussi des pêcheurs et des agriculteurs. Ils remontent à peu près à 1000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 200 après Jésus-Christ. Et eux, bien sûr, ils avaient pratiqué une momification un peu différente, dans le sens que tout à l'heure, les momies de Chincholos, elles sont allongées. Donc c'est un type d'inhumation allongée. Et là, ce sont la première culture andine à procéder à une inhumation. Le corps est recroquevillé en position fœtale. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi correspond la position fœtale. On pense que ça renvoie à l'idée que c'était le fœtus, donc la position avant qu'il ne vienne au monde, dans le ventre de leur mère, dans le retour aux ancêtres. Le retour, mais c'est une hypothèse, on n'en sait rien. Et là, c'est un archéologue péruvien qui vivait au début du siècle, qui s'appelle Tello. C'est un des grands archéologues péruviens. Qui, dans les années 25-30, a découvert dans cette région 156 structures funéraires, il a commencé bien sûr à les dégager, qui abritaient près de 1000 individus. Donc c'est énorme. Donc ce sont vraiment des nécropoles. Et on a deux types de tombes. Vous avez une première qui est définie comme une phase, c'est-à-dire une époque Paracas cavernas. Pourquoi cavernas ? Parce qu'elle se caractérise par la présence de sépultures placés dans des cavités naturelles, plus ou moins profondes. Ce sont des puits en forme de bouteille qui peuvent atteindre de 5 à 6 mètres de profondeur.
On y entrait comment ?
Alors on y entrait, il y avait une échelle, il y avait tout un système pour pouvoir y aller. Puis après on enlevait bien sûr l'échelle une fois que la momie était déposée à l'intérieur. Mais on sait qu'elle était remise. Et à l'intérieur de ce puits funéraire, on trouve 5, 6, voire 10 momies qui étaient placées. Alors on a pensé qu'il s'agissait de momies appartenant à la même famille. Ça n'a jamais été démontré. Aujourd'hui, on pourrait le faire en travaillant sur les chaînes d'ADN, notamment. Mais bon, c'était au début du siècle.
Ouais. Comment elles sont disposées ces
Alors, ce sont des paquets funéraires. C'est-à-dire, ce sont des momies qui sont enveloppées de plusieurs textiles. Donc, elles sont habillées avec leurs vêtements traditionnels. Et après, vous avez des textiles. Donc, ce ne sont pas des bandelettes comme en Égypte. Ce sont des textiles. Certains textiles peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long sur près de 5 à 6 mètres de large. Alors, les premiers textiles qu'enveloppe la momie, ce sont des textiles en coton, décorés, peints, pas très très riches. Et par contre, les textiles qui enveloppent la momie, donc on peut avoir 10, voire 12 couches de textiles. Et là, on a des textiles très très riches. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, vous avez une exposition au Quai Branly montrant justement ces textiles Paracas.
Ça a été découvert quand, ça ? À quelle époque ?
Alors, les premières fouilles ont été réalisées par Tello en 1926-1930.
Tello, c'est cet
archéologue péruvien.
D'accord.
Alors, bien sûr, depuis, il y a d'autres fouilles qui ont été menées. Donc ça, c'était la première époque,
les je vous ai cavernas. Dit,
les cavernas. Ouais. Et puis, vous aviez une autre phase sur laquelle on revient aujourd'hui, qui est la phase nécropolis, qui serait datée de 100 à 200 après Jésus-Christ. Et là, ce sont des sépultures collectives localisées dans des cryptes creusés à faible profondeur. Donc c'est un petit peu la même idée, mais il y en a beaucoup plus.
Ah
et c'est plus petit.
Plus petit, mais
il y en a énormément. Il y en a énormément. Ce sont vraiment des mausolées funéraires.
Et les corps, de nouveau, sont liés les uns aux autres ?
Alors oui, ce sont exactement les mêmes types de corps. Ils sont un peu plus tardifs. Enfin, on a pensé au départ, à cette époque-là, qu'il s'agissait de deux époques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, c'est un petit peu la même époque et qu'il s'agit de deux pratiques funéraires différentes mais on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils enterraient leurs morts dans deux types de pratiques funéraires différentes.
Mais alors donc on a retrouvé ces momies paracas, elles sont recroquevillées sur elles-mêmes comme ça, comme un fœtus. Est-ce qu'on sait comment elles ont été momifiées? Quel processus utilisait ce peuple?
Oui, alors on sait en effet que, on connaît la préparation du défunt. On sait que le défunt était placé en position assise, les bras et les jambes repliés, les doigts des mains et des pieds étaient attachés, et puis on avait la bouche, les oreilles, etc., qui étaient recouverts de coton, et notamment le visage, de façon à absorber notamment les fluides qui se dégagent au moment de la décomposition des morts, au moment de le faire sécher. Donc ça, c'était la première. Et puis l'ensemble était placé dans une corbeille. La deuxième phase consistait à exposer le mort au soleil, à l'intérieur de ce sorte de fardeau funéraire, de façon à ce qu'il se sèche naturellement. Et la troisième phase, c'était qu'on enveloppait le mort dans des fardeaux funéraires et on le déposait à l'intérieur de la maison. Alors on a retrouvé, on s'est aperçu aujourd'hui que certains de ces fardeaux funéraires étaient sortis, ce qu'on appelle en archéologie les enterrements primaires et secondaires, visiblement lors de cérémonies. Donc on sortait le mort pour lui rendre hommage, on le replaçait. Et ça, c'est une technique et c'est une tradition intéressante, parce qu'on va la retrouver jusqu'à l'époque Inca. En effet, à l'époque Inca, il était d'usage de momifier le corps des Incas et de lui rendre hommage. Lors de certaines fêtes, on le mettait sur la place principale et les membres de la communauté venaient lui rendre hommage et lui offrir des offrandes, de l'encens, etc.
Alors là, on vous a parlé des momies naturelles, des momies artificielles, mais il y a aussi les momies sacrificielles. Quand on tuait des enfants pour sauver, pensait-on, une civilisation. A tout de suite sur RTL Les Curieux.
Avec RTL, cultivez votre curiosité jusqu'à 22h. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On découvre les secrets des premières momies au monde, les momies andines, avec nos invités Patrice Lecoq, qui est maître de conférence en archéologie, et Raphaël Dupin, organisateur de l'expo « Les momies ne mentent jamais ». Pourquoi cette expo? Pour regarder la mort en face?
Pas forcément pour regarder la mort en face.
On la cache, la mort, dans nos sociétés. Alors,
dans nos sociétés, on a tendance à la cacher. Et dans les sociétés qui sont évoquées par les momies, elles étaient beaucoup moins cachées.
Ouais.
Dans la partie égyptienne, on était dans une préparation pour un au-delà, dans une préparation fine du corps pour un au-delà. Dans les cultures andines, on est plus dans un corps qui perdure dans la vie réelle, qui continue à exister. Il y a certainement de l'au-delà, mais il y a aussi une présence de la mort au quotidien qu'on retrouve toujours dans les cultures mexicaines. On retrouve ce rapport qui s'est hybridé avec du christianisme, mais on retrouve ce rapport au squelette, à la présentation des têtes. On voit tout cet imaginaire dans les cultures populaires mexicaines notamment.
Comment vous les conservez, ces momies? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que les mâchoires se décrochaient. Alors,
c'est pas nous qui les avons décrochées.
Je sais bien, c'est ce que je voulais dire. Ça fait, j'imagine, depuis le temps qu'elles ont été momifiées. Mais comment il doit y avoir des contraintes importantes.
Il y avait des contraintes qu'on a évaluées avec le Muséum de Madrid. Des contraintes d'hygrométrie, des contraintes de température. On a dû adapter notre bâtiment. Tout est surveillé. J'ai sur mon smartphone en temps réel la température de chacune des momies avec des systèmes d'alerte pour pouvoir suivre si jamais il y a un dérapage.
Vous avez mis où le thermomètre? Pardon. Non, j'oublie, c'était une mauvaise question.
Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est la putréfaction des momies?
Le risque, c'est la putréfaction et les champignons aussi. On a eu un petit doute à un moment donné, on surveille nos momies comme le lait sur le feu. Il y avait des petits points blancs qu'on croyait ne pas avoir vus avant.
Ah oui.
Et on s'est dit, bien, peut-être que c'est des champignons. Et du coup, on a tout de suite pris des photos, on les a envoyées au conservateur qui nous a dit non, c'était déjà là avant. Et donc, on les surveille énormément.
Est-ce qu'il y a, Raphaël Dupin, des momies que vous ne pouvez pas avoir dans votre musée?
Alors, il y en a.
Pour des raisons, justement, techniques comme ça?
Il y a des momies qui sont beaucoup plus difficiles à conserver, à présenter en tout cas. Toutes les momies momifiées par le froid. Donc on peut parler de Ötzi, on peut parler également de la Donchella dont on va parler tout à l'heure, les momies qui ont été préservées par les conditions climatiques de froid sont plus difficiles à présenter.
Alors la Donchella, c'est une petite fille qui a été momifiée. Vous nous racontez à quelle époque et que
Alors,
lui est-il arrivé?
Les Incas, oui, sacrifiaient des êtres humains et en particulier des enfants pour s'attirer la bienveillance des dieux. De la terre-mère, dans leur rapport à la montagne, pour essayer de se préparer pour une guerre, pour célébrer une victoire, pour un moment de la mort d'un souverain. Voilà, il y a plein d'occasions de se mettre les bonnes grâces des divinités.
Mais c'est un drame pour les familles et pour les enfants?
Alors ça, on n'en sait rien, c'est peut-être notre vision à nous qui dit que c'est un drame, mais les enfants étaient choisis pour leur beauté. C'est-à-dire que la Donchella, cette petite fille de 14 ans qui a été sacrifiée il y a 500 ans en haut d'un volcan avec deux autres petits-enfants, on sait qu'elle a été sélectionnée pour sa beauté. Elle a été préparée pendant un an. Elle a été nourrie spécifiquement avec de la enrichie en graisse, avec la graisse de lama.
Pour être sacrifiée.
Oui, elle a été préparée. Ça devait être un honneur pour les familles. Alors ça nous choque bien sûr, tous énormément, choque. Évidemment. Ouais. Mais on pense qu'on est dans un rapport très différent, évidemment, au sacrifice.
Et quel sacrifice ? Ça consistait en quoi ?
Elles étaient donc préparées pour être en forme, belles, elles sont parées, elles sont coiffées, elles sont habillées, elles sont emmenées par, on imagine, dans un rituel en haut du volcan, et puis elles sont sacrifiées, soit laissées sur place, soit sacrifiées en haut du volcan. Du coup, elles ont été conservées par le froid, et en tout cas, la Donchella était dans un état de conservation exceptionnel et était morte d'hypothermie.
Et dans quelle position on a retrouvé cette jeune fille ?
On l'a retrouvée assise, la tête penchée en avant.
Sa dernière position, la position dans laquelle elle est morte.
Oui.
Patrice Lecoq, anthropologue américain, qui s'appelle John Reinhardt, qui est à l'origine de ces découvertes. La première des découvertes, c'est Juanita, qui se trouve à Arequipa. Alors, grâce à l'étude de la momie, on sait qu'il s'agissait des enfants de caciques.
C'est
le procédé des caciques, enfin des autorités locales.
Ouais.
Et c'était pour montrer un petit peu leur attachement à l'Inca. Et on connaît, grâce à certains textes des chroniqueurs, le procédé qui était utilisé de ces capacochas, c'est le terme qui est utilisé, ce grand don. Donc en général, la mère, ils étaient choisis, la mère de l'enfant venait à Cusco avec ses enfants, puis d'autres matériaux, d'autres rituels, d'autres offrandes. On présentait les enfants à l'Inca sur la place, le Capacha, sur la place de Cusco.
L'Inca, c'était le personnage le plus puissant
du Tahuantinsuyo, c'est-à-dire l'Empire des Quatre Moitiés.
D'accord.
Et justement,
on va dire un empereur, si on devait prendre des termes de notre civilisation. D'accord.
Et donc c'est lui qui décidait de la vie et de mort de ses sujets. Et en même temps, c'était un respect. Il était considéré comme le fils du soleil, sa femme comme l'émanation de la lune. Donc on a cette dualité soleil-lune. Et l'Inca était la personne la plus respectée. Et donc, lors de cérémonies importantes liées justement à une naissance d'un fils, ou lors d'un cataclysme, un tremblement de terre, une sécheresse, une inondation due à un phénomène de Niño, à ce moment-là, on déclenchait ce phénomène de Capacocha, et les enfants étaient choisis par les prêtres locaux dans chacune des régions. Ils faisaient le voyage avec une caravane de lama à pied, où ils étaient emmenés jusque dans la ville de Cusco. On les présentait, certains étaient sacrifiés sur place et devenaient des idoles que l'on adorait dans des temples, et d'autres partaient au sommet des montagnes. On parlait notamment de la Donchella, on l'a retrouvée au sommet d'un volcan dans la région nord du Chili, entre la frontière de l'Argentine et du Chili, à près de 1200 km de la ville de Cusco. Donc elle a effectué le voyage qui a duré près de 2 mois. On pense qu'elle était accompagnée de sa mère et de son père. Donc après, il a fallu monter au sommet du volcan qui se trouve à près de 6200 mètres d'altitude. Donc là, on pense qu'elle est accompagnée avec des prêtres spécifiques, les maîtres du culte, et qui là l'ont sacrifié.
Quelle histoire! Merci beaucoup Patrice Lecoq. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en archéologie de l'ère andine, c'est à Paris. Hein, merci à vous Raphaël Dupin.
Merci à vous. Merci à tous les deux.
C'est la fin de votre curiosité. Je vous propose de nous podcaster sur rtl.fr. On se retrouve demain et dimanche à 14h pour découvrir le meilleur des meilleurs moments de la curiosité. Et puis lundi bien sûr Thomas.
On sera là aussi lundi à 20h. Bonne fin de soirée RTL, il est 22h.